Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'histoire se passe aux États-Unis. L'homme est anthropologue. Il a une cinquantaine d'années. Il mène une vie à peu près normale jusqu'au jour où il fait un séjour dans le désert sauvage du Canada. Nous sommes en 2000. Daniel, c'est son prénom, a une révélation. Il découvre la nature, la vie solitaire, la décroissance, voire l'abstinence, et tout cela le bouleverse. Il décide brusquement d'abandonner sa vie matérielle et d'en changer. Il jette son passeport et son permis de conduire à la poubelle et change de nom de famille. Il se fait appeler Suelo, qui veut dire « sol » en espagnol, pour se rapprocher de la terre. Il laisse ses 30 derniers dollars dans une cabine téléphonique et entreprend alors de vivre totalement sans argent, reclus le plus loin possible de tout. Il s'installe alors dans une immense grotte creusée dans les falaises de l'Utah, à Moab, en plein milieu du désert. Il vit de ce qu'il trouve et de ce qu'on veut bien lui donner. Il n'accepte rien de l'État, aucune aumône, dit-il, pas de sécurité sociale, d'assurance, d'allocation, d'aucune sorte. Pas d'argent du tout. Lorsque je vivais avec de l'argent, dit-il, j'étais toujours en manque. L'argent représente le manque, c'est une chose qui nous lie au passé ou à l'avenir, à travers les dettes ou le crédit, mais jamais au présent. La seule concession qu'il fait au monde moderne, c'est le blog qu'il tient depuis une bibliothèque et qui s'intitule précisément « Vivre sans argent ». Il y détaille son mode de vie et y répond à toutes les questions des internautes. Il y confesse aussi avec beaucoup de contrition les compromissions auxquelles il doit se livrer bien malgré lui au cours des années. Il a été hospitalisé une fois et a dû se débrouiller pour ne pas payer entièrement les 1000 dollars réclamés par l'hôpital. Au début de cette année, son père est mort. L'ermite de l'Utah est alors sorti de sa grotte pour régler la succession et se débarrasser fissa de son héritage encombrant. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, deux autres histoires de réclusion volontaire ou de Robinsonnade plutôt heureuse, racontées par Inès Leroux et Alice Sternberg.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je pense que j'ai toujours été sensible, sans doute à l'électricité, mais de manière assez faible en fait. C'est juste que ça me fatiguait, je ne savais pas forcément ce que c'était. Ou j'entendais par exemple les anciennes télés cathodiques. Quand j'étais petite, je jouais à deviner si la télé était allumée ou pas dans les maisons, parce que j'entendais un son. Donc c'était pas douloureux, ça faisait juste un « iiii » comme ça, un truc très très fin que personne n'entendait. Donc c'était très drôle pour moi, parce que j'avais l'impression d'être un peu magicienne.
Cet été, j'ai passé mes vacances en Ariège, en camping près d'une rivière. J'adore cette région très peu habitée et surtout la petite ville de Massat, isolée au milieu des Pyrénées. J'en ai profité pour rencontrer Marine avec qui je correspondais depuis plusieurs années. J'ai fait beaucoup d'émissions sur les maladies environnementales et elle m'avait envoyé son polar sans mobile, inspiré de sa propre vie et écrit dans une bergerie au-dessus de Massat, justement. Elle vit toujours dans cette bergerie reculée. Pour s'y rendre, il n'y a pas de route. Je dois grimper le long d'un sentier forestier pendant près de 20 minutes.
J'ai eu un portable, j'ai eu du wifi, la première à avoir du wifi dans mon entourage. Tout le monde trouvait ça. C'est génial, tu peux même travailler sur ta terrasse. Et puis j'ai commencé à télécharger des films en wifi pendant que je travaillais sur mon ordinateur. Et là, j'ai commencé à devenir débile. À ne plus être capable d'aligner deux mots, à plus savoir recopier un texte, enfin, à être vraiment dans un état de confusion et de fatigue très intense. Et j'ai un ami qui m'a dit « Mais tu sais, le Wi-Fi, c'est pas génial, peut-être que c'est ça, tu devrais débrancher pour voir. » Et donc j'ai débranché, et effectivement, tout de suite, ça allait mieux. Donc j'ai câblé, je suis revenue à l'ancien système avec les câbles Ethernet, et puis j'ai oublié un peu le problème, hein, tout allait bien. Et puis quand même après, mon téléphone portable a commencé à me faire mal à la tête. Donc pas très grave, j'ai pris une oreillette et j'ai continué à l'utiliser. J'ai continué en fait à mener une vie normale entre guillemets jusqu'à l'hiver, je crois que c'est 2009-2010, où là il y a eu un basculement. je suis devenue intolérante à un nombre de fréquences de plus en plus élevé et c'était exponentiel, ça s'arrêtait pas en fait. Donc je supportais absolument plus rien. Quand j'avais mon téléphone portable à proximité, quand il allait sonner, j'avais des maux de tête avant qu'il ne sonne. Donc ça, c'était très pratique parce que ça a permis que mon entourage me croie. Je pouvais deviner avant que le téléphone ne sonne qu'il allait sonner. Ça veut dire que j'ai des perceptions qui sont pas classiques, on va dire. Quand j'étais à côté d'une box, c'était pareil. Au fur et à mesure, je pouvais même dire quelle était la marque de téléphone portable que les gens utilisaient, sans la voir, parce que c'était pas les mêmes mots de tête. Donc c'était assez facile pour moi de comprendre d'où ça venait. Puisque si j'éloignais ces appareils, les symptômes s'arrêtaient. Je les rapproche, il y a des symptômes, j'éloigne, il n'y a pas de symptômes. J'avais des maux de tête terribles, j'avais des états de confusion mentale. J'étais comme une personne qui a la maladie d'Alzheimer, en fait. Enfin, c'était très angoissant parce qu'en fait, j'étais même plus capable de comprendre comment je pouvais me sortir de cette situation. Parce que j'étais enfermée chez moi à me dire bon, « ça va pas, ça va pas ». Mais qu'est-ce qui va pas, au fait? J'oubliais au fur et à mesure. Et comment je... Oui, là, j'ai mal à la tête à cause des ondes. Mais pourquoi j'ai mal à la tête à cause des ondes? Ah oui, il faudrait que je parte de chez moi. Faut que je parte de chez moi, mais je vais aller où? Et puis, là, tiens, tout d'un coup, je tiens genre un sac pour préparer mes affaires. Mais pourquoi je tiens un sac? Ça buguait, en fait, dans mon cerveau. J'avais une très bonne amie qui m'a sortie de Marseille, quoi. Mais j'étais pas tirée d'affaire pour autant, parce qu'en fait, autour de Marseille, c'est pas mieux. La campagne... Les antennes sont très puissantes, donc... beaucoup plus puissante qu'en ville. Donc c'était un petit peu difficile pour moi de comprendre qu'il n'y avait plus d'endroit où je pouvais me réfugier. Et je crois que pour tous les électrosensibles, c'est une étape assez difficile d'admettre qu'il n'y a plus d'endroit sur la Terre à l'heure actuelle qui soit préservé. Donc c'est sous Terre, si on veut vraiment être protégé, ou sinon il faut faire face. Moi, ça a été ma manière de faire face, ça a été de tout quitter, en fait. J'ai eu la chance de trouver un lieu relativement protégé, à la campagne, dans un endroit oublié par les opérateurs. C'est une petite poche, le téléphone capte à 2 km à droite et à gauche, et puis là, il y a une sorte de cuvette où ça captait pas. Je vivais dans une roulotte qui était dans le jardin de ses amis chez qui j'étais. Et je m'organisais pour faire le moins de courses possible, en fait, pour m'exposer le moins possible aux ondes. Et vraiment, j'avais une zone blanche de 20 mètres carrés autour de la roulotte. Donc je sortais pas beaucoup de mon petit périmètre. Mais je croyais au départ que c'était pour 15 jours que j'allais rentrer à la maison, que j'allais reprendre mes activités. Puis 15 jours, c'est devenu un mois, c'est devenu 2 mois, puis 3 mois, puis 6 mois. Puis là, j'ai compris que je rentrerai pas, en fait. Que... À ce moment-là, même, je pensais que j'allais en mourir. Donc, au bout d'un an, à peu près, j'ai mis mon appartement en vente parce que j'ai compris qu'il fallait que je fasse mon deuil d'une vie qui n'était plus pour moi. Donc, la vente de mon appartement a financé ma survie pendant plusieurs années. Un petit chat est apparu sous ma roulotte. Donc j'ai fait savoir autour de moi à des amis un peu partout qu'il y avait un petit chat qu'il fallait donner. Et j'ai des amis en Ariège qui m'ont dit « Bah nous on le veut bien, faut que tu nous l'amènes. » Alors à l'époque j'étais obligée de passer par les toutes petites routes. Surtout pas prendre l'autoroute parce qu'il y a des antennes tous les 7 km maximum. Tandis que sur les départementales c'est moins difficile. Il y a plus tôt une antenne par village. C'est un peu plus tranquille, on va dire. Je portais à l'époque un voile blindé, de tissu blindé, qui sur le visage, sur la tête, plus un chapeau blindé par-dessus, qui me permettait de souffrir moins. Je sentais quand même, mais moins. Donc me voilà partie avec ce petit chat jusqu'à chez ses amis qui habitent en Basse-Ariège. Et en arrivant chez eux, j'ouvre la portière et le chat s'en va en courant et il rentre directement dans une maison. Et donc je suis le chat. Et là, je vois des gens qui transportaient des cartons et qui avaient l'air de déménager. Et je leur dis « Excusez-moi, vous n'avez pas vu un petit chat ?» Ils me disent « Si, si, il est rentré dans la maison, tu peux aller le chercher. » Donc je rentre dans la maison et là, un sentiment de bien-être terrible. En fait, il n'y avait pas de réseau dans la maison, il n'y avait rien. Et donc, j'ai demandé si je pouvais peut-être habiter là. Ils m'ont dit oui, la maison est allouée, pas de problème. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée en Ariège. Le bail n'était que de 6 mois. Donc, j'avais un impératif. Je devais trouver un autre endroit. Et j'ai trouvé le lieu où je suis actuellement, une ancienne bergerie dans la montagne, assez protégée. Voilà. Il va falloir que j'aille voir mon bébé.
Oui, oui. Ça vous embête si je me laisse un pendant qu'on discute?
Ça vient. T'es tranquille, mec. Voilà. Donc j'ai un petit bébé qui n'a pas l'air électrosensible, ça c'est bien.
Ça va mon cœur, tu peux y aller.
Marine a aussi trouvé dans la montagne le père de son nouveau-né, qui était son plus proche voisin. Mais avant cela, elle a vécu 3 années seule dans sa bergerie.
Donc je me suis retrouvée dans cette bergerie, isolée dans la montagne, toute seule. Avec un enneigement très fort l'hiver, il peut y avoir 1,50 m, voire plus, de neige. Il n'y a pas d'accès routier, j'avais pas le téléphone, j'avais pas d'électricité. Alors, quand je suis arrivée ici, j'ai acheté 4 choses. J'ai acheté des chaussures de marche, j'ai acheté des lunettes de soleil anti-reflets pour la neige, une pelle à neige et une tronçonneuse. Je coupais le bois. Et donc, j'ai fait des bonhommes de neige, j'ai sauté dans la neige. Pour moi, c'était vraiment drôle. Par exemple, quand il y a 1,50 m de neige, pour atteindre le tas de bois, il faut un peu nager sur la neige. Sinon, elle s'affaisse quand vous marchez dessus. Même avec des raquettes, ça s'enfonce jusqu'à la taille dans la poudreuse. J'ai passé vraiment des moments à me dire, à transporter mes bûches dans des conditions de fou, à me dire, mais quelle drôle de vie. Sous les étoiles, en même temps, un ciel étoilé magnifique, avec voilà la lumière de la petite bougie qui est dans la maison, puis moi dehors avec mon renard qui me guette, qui se demande ce que je fabrique. Et en fait, ça a été les plus beaux moments de ma vie. Ça a été vraiment les plus grandes joies de découvrir dans la solitude. Il a fallu aller puiser vraiment au plus profond de moi, et j'ai trouvé quelque chose d'universel, je pense. C'est une sorte de sentiment de continuité de la vie, qu'il n'y a pas de séparation entre les êtres, entre les choses. Et donc, on accède à une grande force et une grande joie de vivre. Et j'ai trouvé ça ici. Sans souffrance physique, ici, j'ai vraiment éprouvé déjà la joie d'être dans un corps vivant, sain et en bonne santé. Quand on a beaucoup souffert, en ayant l'impression d'être torturé, le jour où la torture s'arrête, on éprouve un soulagement vraiment intense. Et surtout, j'ai médité beaucoup. J'ai eu la chance de découvrir une technique de méditation qui s'appelle Vipassana et qui consiste à observer les sensations. Donc j'ai passé des très très longs temps ici à méditer. Là où vous êtes assise, à côté du poêle, je me levais souvent à 3-4 heures du matin avec ma petite bougie. Et je remettais du bois dans le poêle et puis je m'asseyais. J'ai écrit des livres, j'ai commencé des études de droit, voilà, dans cette solitude. L'idéal, c'est de devenir avocate. Donc je fais des études à Paris 1, à la Sorbonne, qui a aménagé mes conditions d'examen. J'étais dans une pièce à part, aménagée pour que je puisse passer mes examens. Avec un surveillant que pour moi toute seule, qui n'a pas de portable, avec personne dans les salles à côté, les néons au plafond qui sont éteints, et donc avec une petite lampe que j'apporte, qui fonctionne à pile.
Marine est en 3e année de droit. Elle me raconte son long combat judiciaire, inédit en France, au terme duquel son électrosensibilité a été reconnue comme un handicap. Après 5 années passées loin des brouillards électromagnétiques, avec les soins d'une toxicologue et par la méditation, elle a pu se reconstituer une santé.
Alors, je ne peux pas dire que je suis guérie, parce que certains types de fréquences me font encore des maux de tête, C'est très ponctuel. Mais disons que j'ai 95% des symptômes que j'avais que je n'ai plus. J'ai bien envie de retrouver un peu de civilisation. Donc à dose homéopathique, hein. Il faut raison garder. Mais oui, je crois que c'est le moment pour moi de redescendre de la montagne.
France Culture, les pieds sur terre.
Dans une fête de village, je rencontre un jeune homme, Camille. Il m'apprend que lui aussi vit au sommet d'une des montagnes qui entoure Massat. Je prends des indications pour le retrouver dès le lendemain. Après de nombreux lacets, la route goudronnée s'arrête à la lisière d'une forêt. C'est là qu'il m'attend.
Donc ici s'arrête le char, la voiture, le bout du chemin. On peut saluer le Mont Valier, le maître de l'Ouest. Voilà le versant ouest de la montagne, la chaîne des Pyrénées. On va se perdre dans les châtaigniers. Le petit chemin, c'est par là. Voilà ce qui jadis fut des bergeries. Une terre abandonnée depuis cinquantaine d'années, attaquée par la fougère.
Mais là, on a dû monter un sacré dénivelé. On est à quelle altitude?
Là, c'est à 1000 mètres. Donc la fougère, il faut la faucher 7 fois par an pendant 7 ans pour qu'elle disparaisse. Alors il y a du travail parce qu'il y en a beaucoup. C'est la faux qui coupe. Sous la fougère, il y a mes deux amis, c'est millepertuis et serpolet. On les met en infusion, on les fait macérer dans l'huile et tout ça. Ils sont pas encore en fleurs, mais voilà, ça viendra. Du coup, je dégage la fougère pour leur donner un peu de lumière. Là, on est chez les bouleaux. Tout ça, c'est des bouleaux. Tout à l'heure, on est passé dans les châtaigniers.
Ça, c'est un immense bouleau. C'est ouais, toi qui l'as coupé à l'âge.
Il me cachait le coucher du soleil.
Alors, Camille, toi, t'as une bonne barbe.
Une petite barbiche.
Un vieux pull, un vieux pantalon.
Ouais.
Tu marches à peu près tout le temps pieds nus ou avec des sandalettes?
Ouais.
T'es plein de terre?
J'ai un petit peu de terre sur le bout des doigts.
T'as quel âge?
J'ai 25 ans. Et bien c'est à mon retour d'un voyage en Inde que je suis arrivé en Ariège. Mon frère avait acheté une grange qu'il a rénovée dans le coin et j'ai pris goût au pays. Ça fait 3 ans que j'ai mis les pieds, ça fait 1 an que je vis ici sur le terrain. Donc il y a eu 2 ans de recherches diverses quoi. Je suis allé voir sur le bon coin, j'ai vu un terrain à vendre. Donc le matin de Noël, il faisait même pas jour encore que je prends ma voiture et je viens voir le lopin de terre. Et je l'ai pas trouvé, je me suis perdu dans la montagne. J'ai rencontré un vieil ours. Et ce vieil ours m'a indiqué un endroit propice où m'installer. Et me voilà installé à cet endroit propice. Tout de suite dit, ah ça va le faire ici. Alors moi ce qu'il me faut c'est la vue, le plein sud, un peu de plat et la source. Voilà, ça c'est l'essentiel. Voilà l'arbre doyen, le plus beau chêne de chez moi, qui doit avoir 150 ans au moins. À une époque c'était que du pré ici, c'était une estive quoi, il y avait les bêtes qui étaient montées ici et il n'y avait pas d'arbre en fait. Les paysans, ils allaient chercher le bois très loin pour se chauffer, pour faire à manger et tout ça. Et aujourd'hui, on est envahi par la forêt. Et là, c'est peut-être ce qui un jour sera ma noble demeure, si Dieu le veut. Donc il y a quatre murs encore, un pignon. Ça a l'air de tenir. Voilà.
C'est ouais, une ruine de 10 mètres carrés.
Et ici coule la vie. C'est la source. Je bois cette bonne eau.
Et là, on arrive sur ton terrain, Camille. Donc, c'est une clairière en pente.
J'ai une terrasse et il y a le jardin dans la pente. Ah, voilà.
C'est toi qui t'es fabriqué ton habitation ?
Et cette petite cabane, pour les connaisseurs, cabane autoportée ou réciproque, à 8 côtés. Donc ça donne un peu l'impression d'une yourte en fait, il y a une fenêtre zénitale en haut du toit. C'est rond en fait, voilà, petite cabane ronde.
Et il n'y a pas de mur.
Et elle n'est pas terminée, donc pour le moment ça fait plutôt kiosque à musicien. Là il y a un plancher, un toit avec des poteaux qui supportent le toit. Et puis cet automne il y aura des murs et des fenêtres. D'ailleurs quand ça souffle, le vent d'automne là, il ramène un petit peu de chaleur, mais il souffle très très fort quoi. Et l'autre jour il m'a un peu arraché mon toit quoi.
Comment t'as passé l'hiver sans mur ?
Il y avait un tipi qui était tendu dedans avec un poêle. Et puis cet automne il y aura des murs et des fenêtres.
Il y a quelques pots de bêtes, un duvet, une petite bibliothèque.
Ésotérique.
Il y a un tapis, quelques ustensiles de cuisine, une boîte à outils.
Et les outils du jardin. Et le jardin qui est protégé comme une forteresse, avec du fil barbelé pour pas que les animaux ils viennent manger mon jardin.
Est-ce qu'il y a des chevreuils pas loin ?
Des chevreuils, des biches, des cerfs, des sangliers, des salamandres, des lézards, des souris. Bon voilà, ce petit jardin, bah, c'était un champ de ronces hein, il y a un an. Et puis c'est bien, il est joli aujourd'hui, il est pas encore au point, mais c'est cool, il y a de la fraise qui se promène. Là-bas, il y a de la groseille. Maïs, choux, courges, haricots, pommes de terre, des carottes, des salades, des betteraves, des blettes.
Tout ça tout seul.
J'habite tout seul. Voilà, là-bas, t'aperçois ma cuisine au feu de bois. Ma cuisine au feu de bois. Donc avant de cuisiner, il y a toujours une petite séance de fendage de bois. Donc voilà, on tape, on cogne. Ah, il y a des fois ça résiste. Donc une fois qu'on a du bois, on l'emmène dans la cuisinière. Dans le trou, hop, ça prend feu assez vite si on a bien mis le bon bois.
Tu t'es fait une cuisinière à partir de pierre ?
Ça ressemble un peu à une cheminée en fait. Et comme ça, on pose le wok dessus et...
Et comment tu fais pour avoir accès aux sanitaires, à l'eau, à...
Alors j'ai ma baignoire d'extérieur, ça j'avoue quand même, il faut en parler. Parce que quand il y a la neige dehors, que le feu a bien chauffé l'eau, et qu'on est dans l'eau chaude, avec la vue sur les montagnes, on est quand même pas mal quoi.
Tu venais d'où avant ?
Je viens de la banlieue royale. Versailles, Saint-Germain-en-Laye. Je me suis toujours préparé à ça en fait. J'ai jamais imaginé vivre dans la métropole. Du coup, mon enfance a été une préparation à l'exil. Je faisais exprès d'avoir des mauvaises notes à l'école. Comme ça, j'ai pas pu faire d'études et j'ai pas pu avoir une situation sociale acceptable en milieu urbain. Du coup, voilà, c'était une préparation à l'exil quoi. Ma mère, mes frères, ils ont eu quelques sursauts d'incompréhension. Parce que les choses prennent du temps à se mettre en place. Alors la première année, on ne comprend pas bien l'intérêt de squatter comme un clodo sur un terrain. Mais au bout de quelques années, quand on prend du plaisir à venir se ressourcer, tout ça, on comprend mieux, quoi. Donc moi, je l'ai compris tout de suite, mais ils auront pris un peu plus de temps que moi à comprendre. Ils sont tous venus, ouais.
Ça a été dur parfois cette année qui vient de s'écouler ?
Non. Non, je crois que ce qui était dur, c'était de vivre dans le béton, avec un réveil. Voilà, ça c'était dur. Mais ici, c'est, pour moi en tout cas, c'est moins dur. Quand j'étais petit, déjà, je m'intéressais aux planètes.
C'est vrai que là, en plus, tu dors avec la voûte céleste au-dessus
ouais,
de toi.
Carrément. Voilà la belle vue qu'on a. C'est vrai que ça y fait quand même de se réveiller avec la montagne le matin. Ça donne le sourire. Je me réveille avec mon réveil ornithologique. Bon, voilà, il y a les oiseaux qui chantent le matin quand la lumière arrive. Et des fois, j'ouvre l'œil, des fois, je le referme. Ça dépend des jours. Mais c'est quand même bien agréable, quoi. Et comme il n'y a pas de lumière, je me couche avec la nuit. Il n'y a même pas de bougie, dis-toi.
Mais t'es vraiment un Robinson Crusoé, là, au milieu de la clairière.
Ouais, alors, j'ai besoin d'amour. Ça, on n'est pas fait pour vivre tout seul. Alors, les besoins du cœur, c'est très simple. Il faut aller au bal. On descend dans la vallée à pied, là. Le village, il est à 40 minutes. Après, on fait du stop. Donc quand on va au bal, on voit plein de filles, on danse avec les filles et les cœurs s'échangent et tout ça et voilà, ça tout va bien. Wrote you this, I hope you got it safe. It's been so long, I don't know what to say. I traveled round deserts on my horse, but jokes aside, I wanna come back home. You know, that night I said I had to go. You said you'd meet me on the sunny road. It's time, meet me.
Robinsonade, c'était une émission d'Inès Leroux et Alice Sternberg, diffusée pour la première fois le 1er septembre 2016. Sachez que depuis la diffusion de cette histoire en octobre de cette année, il y a quelques jours, une équipe de chercheurs de Sorbonne Université a communiqué sur les champs magnétiques et a montré qu'ils avaient bel et bien des effets biologiques induisant la production de toxines. Ils ne peuvent pas encore dire si ces ondes sont dangereuses pour les individus, mais nous y approchons quand même à grands pas. C'est Anne Kobila qui a réalisé cette émission. Merci à Marine, à Camille, à Jeanne Delecroix et à une autre Camille, Camille Richir, qui est notre stagiaire.